RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
À 9h07, nous allons nous intéresser à notre soirée télévisée. On rappelle évidemment, Isabelle, le débat proposé ce soir sur BFM TV et CNews entre les 11 candidats.
Oui, vous ne vous attendez pas à une fine analyse politique de ma part. Je vais donc vous en dispenser en précisant simplement que le plateau du studio de la Plaine Saint-Denis fait plus de 800 mètres carrés, que le décor est circulaire et les candidats en arc de cercle face aux présentatrices Rutel Krief et Laurence Ferrari, les meneuses de débat. On rappelle que les introductions et les conclusions seront de 1 minute chacune au lieu d'une 30 pour les primaires, soit 11 fois 30 secondes de gagner pour le débat à haut débit. Comme dit l'autre, il n'y a plus qu'à.
Alors, votre énorme coup de cœur est pour le documentaire fiction Premier Homme qui est diffusé sur M6. Pourquoi parler de fiction d'ailleurs ?
Parce que ces ancêtres des premiers hommes sont incarnés par des comédiens recouverts de masques d'une finesse inouïe qui permettent absolument toutes les expressions à la mobilité du visage. Alors, les rares critiques parlent d'ailleurs d'anthropomorphisme dénaturant la réalité. Ils la connaissent, eux, la réalité. Et puis, comment se sentir attaché si on n'est pas impliqué ? Alors, ça dénature rien. Au contraire, vraiment, ça nous rend les choses très proches. La critique ne tient pas. Alors, qu'apprend-on ? Eh bien, tout. Que notre grand-mère, l'australopithèque Lucie, n'est pas du tout la première à s'être mise debout. Elle fait même, au contraire, partie d'un groupe qui, faute d'avoir voulu quitter les arbres, va finir par s'éteindre. Le premier à s'être dressé, c'est le Pierrot-là. Vous en aviez jamais entendu parler ?
Non.
Moi non plus. Il y a environ 13 millions d'années, long poil laineux, yeux d'or, il est adorable. Il connaît les contrepoisons et il invente le rire pour désamorcer les situations, la preuve.
Le rire.
Voilà. C'est pas beaucoup pire que certains d'aujourd'hui, le mien notamment. Alors, quand la Méditerranée devient une mer morte, le Pierrot-là va vers l'Afrique, plus au sud, et il y a quelques 7 millions d'années, il devient Toumaï, un hominidé qui invente la guerre, la séduction. Et oui, plus il se met debout, plus il est loin du centre de gravité sexuelle. Écoutez plutôt.
C'est que le mâle voit moins bien le sexe des femelles. Comment savoir si elle est réceptive ? Avant de passer à l'acte, cela l'oblige désormais à tester la bonne volonté de la femelle.
Voilà, là franchement je crois qu'elle veut pas. Et les sentiments suivent, les couples se regardent, ils découvrent le baiser et l'amour face à face, plus fesse à fesse. Mais celui qui en dit plus sur la sexualité, c'est Pascal Pic, paléo-anthropologue et maître de conférence au Collège de France qui était également hier soir avec nos amis Thomas Hugues et Sidonie Bonnec.
Oui, parce qu'on a affaire à des espèces qui vivent beaucoup plus longtemps, qui marchent beaucoup mieux debout, ce qui modifie quand même l'anatomie, l'allure et les rapports à la sexualité et à l'attirance, bien évidemment. Alors, comme nous savons que chez les hommes, les chimpanzés et les bonobos, il y a des préférences entre les partenaires sexuels, il y a des jeux érotiques, des attouchements, etc. Si on retrouve ça chez les descendants, on pense que c'est chez les ancêtres. La sexualité ne va pas être engagée que pour faire des petits. La sexualité intervient pour se polier, mais pour donner du plaisir, c'est aussi pour réguler les relations sociales, pour avoir des liens d'amitié qui peuvent être aussi homosexuels. Hein. Et ça, ça apparaît du temps de Toumaï.
Et ce qui est curieux, c'est que la femelle, toute puissante au départ, et elles vivent en groupe, eh ben, vont devenir de plus en plus fragilisées et finir en harem. Eh oui, on ne réécrit pas l'histoire. Et bientôt apparaît l'Homo naledi, qui commence à parler, à quitter les arbres pour la savane, poussé par la faim. Il se découvre chasseur et chassé.
Vanana, tete, tout.
Voilà. Vous savez quoi ? Tout reste à découvrir. Pascal Pic le prouve.
Bah celui-là, il nous est tombé dessus, on s'y attendait pas. Parce que depuis 1964 exactement, les paléanthropologues ne s'entendent pas sur qui est le premier homme. Alors, il y avait une réunion en Tanzanie, là où avait été trouvé le Homo habilis. Alors, Homo habilis, il fait en disant 1m10, il a un cerveau de 600 cm3, à peu près la moitié du nôtre, une mâchoire un peu solide, des bras encore longs et des jambes courtes, mais il marche mieux que Lucie, par exemple. Et puis on se disait, voilà, c'est un homme tout à fait convenable. Et voilà que notre collègue d'Afrique du Sud arrive avec Homo naledi, les restes de 15 individus trouvés dans une grotte dont on ne connaît pas l'accès. Et c'est Homo naledi, exactement l'inverse d'Homo habilis. Plus grand, plus longiligne. En dessous du bassin, il marche quasiment comme Homo erectus, donc les premiers hommes. Mais au-dessus du bassin, c'est une cata totale. C'est un corps d'australopithèque qui vit dans les arbres. Les cerveaux est encore plus petit. On l'a fait Homo parce qu'il est proche des origines de l'homme. Aujourd'hui, la question de qui sont vraiment les premiers hommes, avant les hommes avérés, qui sont les Homo erectus, on ne sait pas parce que nous sommes confrontés à une diversité à laquelle on ne s'attendait pas. On n'est pas au bout de nos surprises.
La suite ce soir sur M6, et moi, j'ai trouvé ça vraiment prodigieux. Mais retenez tout de même ce détail sur l'Homo erectus, qui est toujours vrai aujourd'hui d'ailleurs.
C'est un homme, un vrai. Alors là, tout le monde est d'accord. Alors ça, c'est autour de 2 millions d'années. Ce sont des bêtes de course absolument hallucinantes. C'est un marathonien. Ils vont inventer la chasse à l'épuisement. Les autres proies vont pas s'habituer à cela. Ils avaient des masses musculaires et squelettiques absolument ahurissantes. Alors pour des périodes un peu plus récentes, là, c'est quasiment notre espèce, mais la version plus ancienne, ils couraient plus vite que Usain Bolt, ces gars-là. Ils avaient des parois, des os extraordinairement robustes. Puis derrière, fallait tout mobiliser. C'est 90 kilos, 100 kilos que de muscles, ils courent, quoi. L'homme ne court pas vite, mais il est extraordinairement endurant. C'est ça qui fait sa force. Et puis, ils vont inventer le feu, ces Homo erectus, avec le langage, tout ça en même temps.
Et l'homme est toujours le meilleur coureur de toutes les espèces. Donc la suite ce soir sur M6, moi j'ai trouvé ça un exercice de vulgarisation absolument prodigieux.
Ça a l'air passionnant. Quoi d'autre à signaler?
Évidemment, Capitaine Marlowe sur la 3, 6 400 000 téléspectateurs la semaine dernière, suivi d'un prodigieux numéro de l'émission Divan. C'est véritablement un scoop cette émission, parce que pour la première fois, le très pudique Vicente Lizarazu, qui déteste les interviews, eh bien se confie en pudeur et en profondeur sur tout, y compris le très intime et le public, par exemple sa retraite.
C'est dur, c'est la fin. C'est curieux parce que t'as 36 piges et puis tu pars à la retraite. Ils m'ont fait un hommage extraordinaire. Et voilà, et en même temps, tu quittes ce que t'aimes le plus au monde, c'est-à-dire jouer au foot, faire des matchs, la compète. Et en même temps, j'étais lassé par la routine. J'avais besoin de liberté, quoi. Il y a des mecs qui partent en dépression, hein.
Franchement, ne loupez pas ce soir le Divan de Marc-Olivier Fauget.
J'ai l'impression que c'est un numéro exceptionnel.
Oui, il est tout particulièrement exceptionnel pour parler populaire.